Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce troisième dimanche de l'Avent. Noël approche à grands pas et j'espère que vos préparatifs sont en bonne voie. En tout cas, nous avançons gentiment. En effet, dimanche prochain, nous célébrerons la fête, la naissance de notre Seigneur avec un culte à 16h. Et je me réjouis d'ores et déjà. Et donc ce matin, je me suis tourné vers ce texte qui nous parle de Marie. Et c'est vrai que c'est dangereux. Dans notre tradition théologique, nous n'aimons pas trop aborder la figure de Marie par crainte de la diviniser ou quoi que ce soit. Et je retiens cette réponse que m'avait fait un prêtre. Je ne prie pas Marie, mais ça ne m'empêche pas d'honorer la mère de mon Seigneur. Et c'est vrai que la figure de Marie a toujours été tendue. Il y a même eu une division à l'Église, il y a de ça des millénaires, plus de 1000 ans, sur cette question de Marie, mère de Dieu. Et ils ont ajouté ce... Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit cours d'histoire du christianisme ? Magnifique est le Seigneur. Et je l'ai entonné lundi à la couture, parce que je préparais déjà cette prédication. Magnifique est le Seigneur. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est essentiel de couper mon micro pendant la louange. Mon âme magnifie, célèbre la grandeur de Dieu. Et mon esprit est réjoui par Dieu, mon Sauveur. Marie exprime toute sa joie et sa reconnaissance dans l'attente de la naissance de Jésus, l'enfant qu'elle porte, Jésus, Fils de Dieu. Et donc, je vais me poser la question, je vais nous poser la question ce matin, en quoi ce cantique m'enseigne-t-il à célébrer Noël ? Et comment est-ce qu'il me prépare à célébrer la venue de Jésus ? Et c'est intéressant que, en lisant une prédication pour préparer ce message, un des prédicateurs rappelait que le chant est le meilleur moyen pour communiquer la joie et l'espérance. Et je suis très content car hier après-midi, à l'occasion du Noël de la gerbe d'automne, nous en avons eu un bon exemple. Encore merci aux organisateurs et aux organisatrices. Les chants gospel transmettent ce que j'appellerais un soupir de liberté et une espérance qui crie à Dieu, et j'ai trouvé ça magnifique. Noël et le chant, ça me rappelle également des souvenirs d'enfants. Donc comme vous avez pu le voir à l'instant, je ne chante pas très bien. Je peux faire plein de choses, mais chanter, c'est difficile pour moi. Et au risque de vous étonner, mes deux parents non plus ne chantent pas très bien. Désolé, papa. Mais mes grands-parents insistaient quand même. Il était obligatoire de chanter avant de pouvoir ouvrir les cadeaux à Noël. Et donc l'opération s'articulait et s'organisait un peu comme une forme d'audition. Nous étions alignés devant le sapin de Noël. Les adultes, les grandes personnes nous regardaient. « Allez, tu veux pas chanter ?»« Ouais, si. » Donc, ce que j'aimerais vous encourager, et là on voit bien, Marie adresse un hymne à Dieu. Et je crois et je veux vous encourager à chanter au Seigneur, et en particulier à Noël, même si pour des raisons comme moi, votre voix n'est pas magnifique ou voilà. Chanter ensemble, en famille, à Noël, tous ensemble. Et ce que je vous propose, c'est d'éviter ces auditions où tout le monde est mal à l'aise et que heureusement les cadeaux sont quand même donnés après, même si le chant n'est pas une réussite. Pour bien comprendre la richesse de ce cantique, il est nécessaire de le replacer dans son contexte. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va porter miraculeusement un enfant. Et cet enfant, c'est pas n'importe qui, il s'appellera Jésus, Yehoshua, qu'on pourrait traduire par Josué. Et ce Jésus, il est dit qu'il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Et lors de cette conversation avec le messager du Seigneur, Marie apprend également qu'Élisabeth, une parente, attend également un enfant. Marie se dépêche de se rendre chez Élisabeth, qui habite dans les régions montagneuses de Juda. Et dès que Marie salue Élisabeth, l'enfant de cette dernière, le texte nous dit, remue et rempli du Saint-Esprit, Élisabeth proclame « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et je veux m'arrêter quelques instants sur cette proclamation. Et j'aimerais aller même jusqu'à dire cette proclamation de foi. Marie vient de recevoir la visite de l'ange. Elle est donc, vu qu'elle s'est dépêchée d'aller chez Élisabeth, plus ou moins dans son premier mois, on ne sait pas trop quand, mais plus ou moins dans son premier mois de grossesse. On ne voit pas qu'il y a un bébé. Pour vous faire même une petite histoire, hier je rencontrais une dame avec qui je parle et il s'avère qu'elle sait que ma femme est enceinte. Et du coup, je lui dis « Oui, ma femme est enceinte. » Et plus tard, lorsque ma femme me rejoint, cette même personne me dit « Ah, c'est ta femme ?» Je fais « Oui, mais tu ne m'avais pas dit qu'elle était enceinte. » J'ai dit « Il me semble qu'elle l'est. » Non, non seulement Élisabeth, c'est difficile pour elle de voir que Marie est enceinte, mais ce qu'elle dit, c'est par la foi qu'elle peut le dire. Béni sois-tu et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Et donc le premier encouragement que j'aimerais vous donner à l'approche des fêtes de Noël, c'est d'ouvrir les yeux et de voir par la foi cette promesse qui nous est accordée. Et en effet, il n'apparaît pas nulle part ce cantique. Mais il s'inscrit dans la suite de ces deux dialogues. Et ces deux dialogues qui chamboulent, qui transforment une vie. Imaginez-vous, un ange qui m'apparaît alors que je suis tranquillement chez moi, à tricoter par exemple. Et alors que je suis chez moi à tricoter, un ange apparaît et me dit « Vincenzo, une carapace de tortue va te pousser dans le dos. » Ok. Alors je dis ça parce que bien entendu que ce serait compliqué que je puisse tomber enceinte. Mais la vie de Marie est radicalement transformée. Non seulement parce qu'elle est enceinte, mais bien plus parce qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, et de surcroît parce que c'est le Fils de Dieu. Et non seulement cette conversation avec l'ange chamboule, mais également celle avec Élisabeth. Élisabeth ne peut pas voir et pourtant elle déclare par la foi que Marie porte notre Sauveur. Et moi, je retiens cette parole d'Élisabeth et j'aimerais presque commencer à nous encourager à être des Élisabeth, à apporter ces prophéties qui accueillent, qui ressourcent et qui envoient. Marie n'est pas la première maman à entonner un cantique dans la Bible. Anne, la mère de Samuel, du prophète Samuel, s'exprime également par un cantique au moment où elle confie son fils au prophète Élie, au moment où elle offre Samuel à Dieu et à son service. Alors permettez-moi de faire une petite extrapolation, mais Jésus, lui, n'est pas encore né, et pourtant Marie entonne déjà le cantique. Jésus, dès les premiers instants, appartient et est déjà au service de Dieu. Avant même de naître, Jésus est déjà pleinement consacré, il est déjà pleinement notre Sauveur. Pourtant, Marie est différente d'Anne. Et d'ailleurs, c'est la même différence qui la distingue d'Élisabeth. Marie est jeune, elle n'est pas encore mariée, et donc elle n'a jamais été confrontée à la stérilité. Que ce soit Élisabeth ou Anne, le texte, pour les deux cas, nous dit que toutes les deux n'arrivent pas à porter des enfants. Mais Marie, elle, n'a jamais essayé. On ne peut pas savoir, elle n'a jamais attendu. Et généralement, et on voit bien avec ce cantique, plus l'attente est longue et plus on se réjouit de l'accomplissement. Plus l'attente est longue et plus on se réjouit. Et pour Noël, ma femme m'offre une nouvelle manette pour les jeux vidéo. Alors, je sais, parce que je cherchais un pull où j'ai retourné tout l'appartement, j'ai toujours pas retrouvé, et j'ai ouvert le mauvais tiroir avec une manette de jeux vidéo. Alors, pour vous présenter ma femme en quelques mots, c'est pas ma femme qui va faire des jeux vidéo. Et donc, je suis assez sûr que cette manette, elle est pour moi. C'est très intéressant, c'est une manette avec des palettes derrière, vous savez. Comme ça, vous avez des touches supplémentaires. Ouais. Je sais où elle se trouve, mais Lara m'oblige à attendre le 25 décembre pour ouvrir mon cadeau. C'est absolument terrible. Je pourrais déjà l'utiliser aujourd'hui. Je me permets de l'annoncer déjà maintenant, je le répéterai plus tard. Au travers de ce cantique, ce n'est pas simplement et seulement l'attente de Marie qui s'exprime, mais je crois que c'est l'humanité entière qui annonce ce soupir à Dieu. Et si Marie, elle, n'a pas attendu, voilà déjà depuis le début de la Genèse, depuis la chute, que l'humanité attendait ce Sauveur qui vienne nous délivrer et nous libérer. Tournons-nous donc vers ce fameux cantique et découvrons ce qu'il a à nous apprendre sur Noël, donc sur Jésus, donc sur Dieu. Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est réjoui en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. mon âme, mon esprit, mon sauveur. Cet enchaînement de trois possessifs est absolument remarquable. Et on le remarque très bien quand on lit dans le grec « psoukemou, pneumamou, soterimou ». Tout d'abord, mon âme et mon esprit, ici, sont employés dans un parallélisme. Et ils expriment la même idée, c'est une façon poétique de dire « je ». En disant « mon âme magnifie le Seigneur », c'est dire « je magnifie le Seigneur ». Mon esprit est réjoui, je suis réjoui. Et donc on voit déjà bien que l'âme et l'esprit, dans notre texte, s'interprètent la même chose. Donc c'est une petite remarque pour la trichotomiste, ceux qui distinguent clairement entre l'âme et l'esprit. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas de différence dans la signification des termes. Mais ce qui est d'autant plus remarquable, c'est ce « mon sauveur ». Mon sauveur vient compléter le trio. Et ça apporte un sens très profond, c'est-à-dire que Marie s'approprie le sauveur. Et j'ai presque envie de dire « Marie s'approprie Dieu ». Elle ne parle pas simplement d'un Dieu, de quelque chose de lointain, de quelque chose d'éloigné. Mais c'est bel et bien son Dieu. Et parce que c'est son sauveur, alors Marie reconnaît son besoin d'être sauvée. Et si elle reconnaît son besoin d'être sauvée, elle reconnaît donc qu'elle n'est pas sans péché. Comme quelques-uns le disent. Non, Marie a besoin d'un sauveur de la même manière que moi. Et là, j'aimerais lancer ce premier appel pour nos fêtes de Noël. Je ne peux pas vivre Noël par procuration. Et au début de mon ministère parmi vous, il y a une personne qui m'a appelé par téléphone, qui demandait que je puisse prier pour elle. Alors bien entendu, j'ai prié. Mais le lendemain, à la même heure, le téléphone a de nouveau sonné et elle m'a de nouveau demandé de prier. Et remplie d'amour, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas prier à sa place. Je ne pouvais pas lire la Bible à sa place, je ne pouvais pas aller dans une communauté à sa place, et que face à Noël, je ne peux pas laisser les autres le vivre pour moi. Et donc on est placés tous face à une responsabilité, celle d'accueillir Jésus comme notre Seigneur. Reprenons le cantique. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Toutes les générations me diront heureuse et sa bonté s'étend de génération en génération. Par ce couplet, Marie annonce que la bénédiction n'est pas que pour elle. Non, l'enfant qu'elle porte ne sera pas seulement une source de bénédiction pour sa mère. Et je trouve assez fort, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une maman qui vient d'accoucher ou qui porte son enfant, il y a eu une relation assez exclusive, de temps en temps. Alors, bien sûr pas vous, mais on voit bien que c'est son bébé. Et puis, ouf, c'est pas celui des autres. Non, Marie reconnaît que toutes les générations sont bénies en l'enfant qu'elle porte. Et c'est là qu'on voit la grandeur. Élisabeth et Anne ont attendu des dizaines d'années pour que Anne ait Samuel et que Élisabeth Jean-Baptiste. Mais le miracle que Marie accueille répond à une attente bien plus longue. Depuis la chute, depuis des milliers d'années, depuis Abraham, depuis Moïse, tous attendaient la naissance d'un sauveur. Et on en vient donc à ce deuxième point pour Noël. Le premier, je ne peux pas le vivre par procuration. Deuxièmement, je ne peux pas m'accaparer Noël. Noël se partage. Je ne peux pas capturer Noël pour moi seul. En d'autres termes, Jésus se partage. Et la promesse de Noël s'adresse également à ceux qui nous entourent. Et troisièmement, on reprend le texte du cantique. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Face à Noël, face à Dieu, nous sommes tous égaux. Et non seulement nous sommes tous égaux, mais Noël, la naissance de notre Sauveur, redistribue les cartes. La naissance de Jésus renverse les schémas préétablis. Et ici, dans ces trois versets, Marie renverse la conception même de la bénédiction. Et je me permets de le spécifier, Karl Marx n'est pas encore passé par là. La figure du riche, c'est pas le méchant. Et d'ailleurs, vous avez cela lorsqu'on lit « Il est plus dur à un riche d'être sauvé que d'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille ». À l'époque, la personne riche, c'était celle qui était bénie. Et lorsque Jésus annonce cette impossibilité, il dit « Même ceux qui sont bénis ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, même les riches ». Ici, on voit bien que avec Jésus, on est tous et toutes égaux. Nous avons tous besoin du Sauveur. Et nous avons tous besoin d'être sauvés. Jésus met toute l'humanité à nu. Et nous nous retrouvons, j'ai envie de dire presque paradoxalement, tous comme des enfants entièrement dépendants de Dieu. Dieu s'est fait fils pour que nous devenions ses fils. Et donc, ce troisième aspect que je vous encourage pour Noël, c'est non seulement à ne pas vous accaparer Noël, mais à vous l'approprier, mais également à le partager. À le partager parce que nous tous, nous avons un seul et même besoin fondamental, et c'est de Jésus-Christ. Ce qui me frappe en lisant ce cantique, c'est la façon dont il atteste de la foi de Marie. Marie ne devait pas avoir plus de 16 ans. Elle était encore jeune. Et comme vous voyez, son propos est très profond. Et plusieurs commentateurs prennent par exemple l'exemple de la conversation entre l'ange Gabriel et Marie pour célébrer la foi de Marie. Alors je dois vous avouer que ça me convainc pas. Ça me convainc pas parce que l'ange lui dit bon bah tu vas être enceinte. Elle dit bon comment c'est possible, j'ai pas de relation avec des hommes. Il lui dit bah voilà, le Saint-Esprit va venir. Puis elle dit bon bah qu'il en soit fait selon ce que tu as dit quoi. Si t'es du Seigneur, ça se passera ainsi. Mais avec le cantique, ce qu'on appelle le Magnificat, là on voit bien toute cette richesse et cette foi et cette fidélité de Marie à Dieu. Et donc, je crois que Marie doit inspirer notre louange dans cette période de Noël. Et j'espère qu'elle saura l'inspirer. Cette louange qui s'adresse à Dieu du fond de nos cœurs et qui permette que nous fassions de Dieu notre Dieu. Et que ce Dieu personnel, qui non seulement est une personne, mais qui s'adresse à nous en tant que personne, qu'on puisse le partager et qu'on puisse le partager avec cette conviction que nous avons toutes et tous besoin de lui. À Noël, nous avons une incursion absolument, comment dire, surnaturelle de Dieu. Et je veux terminer là-dessus. Déjà, dans le jardin d'Éden, juste après la chute, il est dit que Dieu se balade dans le jardin en disant « Adam, où es-tu ?» Et Jésus ne vient que renforcer cette pensée « Dieu est à ta recherche. Dieu te cherche. » Et en Jésus-Christ, Dieu a tourné les regards vers nous. Et non seulement Dieu a tourné les regards sur moi, sur toi, mais Dieu veut prendre part à ta vie. Sachons recevoir cette invitation et partageons-la. Et que, au cœur de nos fêtes de Noël, la douceur de nos voix puisse entonner des cantiques à notre Seigneur et notre Dieu. Amen.